Vous le savez, le 7-9 d'Inter est aujourd'hui largement dominé par l'ouragan Irma et ses conséquences, notamment dans les Antilles françaises. Situation sur place, premier secours, urgence humanitaire. On en parle jusqu'à 9h avec nos invités. Georges Paul-Angevin, bonjour.
Bonjour.
Ancienne ministre des Outre-mer, Hervé Le Treut, bonjour.
Bonjour.
Climatologue, on termine ce tour de table avec Jean-Christophe Combe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la Croix-Rouge. Quels sont aujourd'hui pour vous, la Croix-Rouge, les urgences, les besoins sur place?
L'urgence d'abord, c'est de pouvoir atteindre les victimes. Vous savez que jusqu'à présent, Saint-Martin et Saint-Barthélemy étaient isolés du reste du monde, que un certain nombre de secours et de moyens se trouvent aujourd'hui à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et que on est en train d'acheminer ces secours et ces moyens vers ces deux îles. Les besoins sont importants, hein. C'est des besoins pour permettre de mettre à l'abri les personnes qui ont été victimes de ce cyclone, de permettre également leur accès aux besoins de première nécessité, de l'eau, de la nourriture, des vêtements, le cas échéant, s'ils ont tout perdu, et puis du soutien psychologique, parce que ces personnes ont vécu quelque chose d'extrêmement violent, d'incroyable, et ils auront besoin de temps pour se reconstruire.
Sur le plan médical, vous vous attendez à trouver sur place quel type de problème à gérer ?
Alors, la Croix-Rouge ne va pas être directement impliquée dans les soins médicaux ou infirmiers sur place. En revanche, on connaît à peu près le type de blessures ou de conséquences de cette catastrophe, hein, qui sont liées à la violence de l'événement, aux chutes d'objets, à des objets qui volent au moment où passe le cyclone. Donc, ce sont des blessures qui peuvent être graves. Voilà, et puis, comme je vous l'ai dit, également des blessures psychologiques importantes qu'il faudra du temps pour réparer.
Georges Paul-Angevin, le rétablissement de l'ordre public est également une urgence, avons-nous entendu à plusieurs reprises ce matin.
Oui, il est clair qu'il y a dans ce genre de situation de chaos des comportements qui sont critiquables, mais qui sont malheureusement fréquents. Et on parle de scènes de pillage. Bon, vous avez des gens qui ont tout perdu, et par conséquent, ce sont des tempérades. Fait des comportements un peu immédiats et critiquables qui peuvent se faire jour. Je crois que surtout, ce que nous avons à organiser, puisque nous sommes à un moment où l'État, avec le budget, est en train de faire de grands choix, nous avons à réparer les bâtiments qui ont été détruits et à réparer en quelque sorte des erreurs qui ont été faites ou des négligences, puisque nous savons que les bâtiments publics ne sont pas tous à la hauteur puisqu'ils ont cédé, et il nous faut donc prévoir que dans les Antilles comme dans beaucoup des Outre-mer, il faut qu'il y ait un certain nombre de lieux qui soient des lieux refuges, qui soient tout à fait solides. Et par exemple, on s'est battu beaucoup sur la reconstruction du CHU de Pointe-à-Pitre, parce que c'est vrai que s'il y a un lieu qui doit tenir debout, même quand il y a de grosses catastrophes,
c'est
l'hôpital, absolument. Oui. Et aujourd'hui, bien des ministères sont en train de préparer leur budget, et il faut que, me semble-t-il, on parle de la solidarité des particuliers, mais il faut que les ministères mettent en priorité les reconstructions ou les constructions nécessaires dans les Caraïbes et dans les Antilles françaises pour qu'on puisse résister à ce type de catastrophe qui, semble-t-il, ne sera pas rare au jour d'aujourd'hui.
Sans esprit de polémique, Georges Paul-Angevin, il y avait un sous-investissement chronique qui peut expliquer la dimension spectaculaire d'une partie des dégâts.
Oui, parce que là, si vous voulez, Saint-Martin, surtout, était une dépendance en quelque sorte de la Guadeloupe, qui était déjà une île où nous n'avons pas d'égalité en matière d'équipement. Donc même s'il y a eu des politiques de rattrapage qui ont été mises en œuvre depuis quelques temps, il est clair qu'à Saint-Martin, par exemple, on a toute une population extrêmement pauvre qui vit au bord de la mer. Et par conséquent, cette population-là est la première frappée quand il y a une catastrophe. Et aujourd'hui, la communauté de Saint-Martin, la collectivité avait déjà du mal à faire face à ses obligations. Eh bien, aujourd'hui, la situation est accrue. Et par conséquent, il faudra des efforts considérables de l'État, de la nation, pour que la solidarité s'exerce à l'égard de cette collectivité et qu'on puisse reconstruire dans de bonnes conditions.
Hervé Le Treut, est-ce que votre capacité à analyser la suite des événements dans les jours qui viennent, les heures qui viennent, est-ce que cette capacité s'affine avec le temps ?
Alors je peux en parler de manière générale, je suis pas, c'est difficile de suivre ce qui se passe là-bas depuis un laboratoire universitaire, mais c'est vrai que la capacité à anticiper les évolutions des cyclones a augmenté de manière colossale dans les dernières décennies. On est capable maintenant de les suivre par satellite, d'avoir des modèles qui prennent en compte des informations satellitaires de manière très précise. On peut voir que les trajectoires qui ont été annoncées ont été respecter. La nature a toujours sa capacité à s'échapper un petit peu. Il y a une part de hasard aussi à l'échelle de quelques jours, quelques semaines. Mais je pense que les capacités de prévision à très court terme sur ces événements-là ont augmenté de manière énorme dans les dernières décennies.
L'ouragan peut perdre en intensité?
Ben disons que là, ça dépend de multiples paramètres que je ne suis pas en mesure d'apprécier. Tant que l'ouragan est sur des eaux très chaudes, il a une capacité à conserver son intensité. Et dès qu'il entre sur des zones qui sont continentales, qui le privent de sa source de chaleur, qui est l'océan, alors là, la décroissance, enfin la perte d'intensité devient très rapide.
Oui. On se demande tous, Hervé Le Treut, si un ouragan de cette force, de cette puissance, on le dit inédit, est lié au réchauffement climatique ou pas?
Oui, alors je pense que c'est une question un petit peu piège, parce que d'une certaine manière, on a beaucoup de preuves que le réchauffement climatique est là. S'agissant des événements les plus rares, les plus graves aussi, on n'aura jamais de preuves absolues à temps. Et donc je crois qu'il faut s'habituer à pas trop réagir justement en fonction de preuves de ces conséquences-là. On a des signes avant-coureurs qui seront toujours des signes insuffisants, mais qu'il faudra malgré tout prendre en compte par rapport à ces événements graves. Et je crois que la prévention, les efforts de prévention doivent prendre en compte non pas des preuves du rôle des activités humaines, mais le fait qu'on a des risques qui sont suffisamment étayés. C'est le principe même de précaution.
Georges Pollangevin, un mot.
Oui, quand nous avions préparé la COP21, les petits États de la Caraïbe et les États aussi du Pacifique s'étaient vraiment battus, avaient supplié pour dire il est très important pour nous, devant les risques encourus, que les grandes puissances prennent conscience des dangers du réchauffement climatique. Parce que très souvent, vous avez de très gros émetteurs comme les États-Unis et vous avez des victimes potentielles comme les petits États de la Caraïbe. Et c'était sur leur insistance que l'objectif de 2 degrés avait été confirmé et qu'on avait même parlé de 1 degré. Créer demi pour essayer d'éviter les catastrophes dans les Caraïbes et dans le Pacifique.
On vous retrouve tous les trois après la revue de presse 01 45 24 7000 pour toutes vos questions sur cet ouragan Irma et ses conséquences.